4.
Ouellet.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio.
Radio.
X.
Ça bouge beaucoup au Québec, effectivement. Ça bouge beaucoup dans le reste du monde aussi. Puis c'est pour ça qu'à chaque semaine, au moins une fois par semaine, on prend le temps d'aller s'informer comme il faut de tout ce qui se passe sur notre belle planète et surtout de tout ce qui se passe dans l'univers de la planète depuis que Donald Trump est au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on va jaser avec notre ami de 7 jours sur Terre, notre chroniqueur en géopolitique, Benjamin Tremblay, qui est là. Benjamin, salutations.
Salut JC, merci de prendre du temps pour moi.
Toujours intéressant, c'est un plaisir. Donc, il s'est passé beaucoup de choses, puis dans ma liste de trucs que je te suggère à chaque semaine, j'en avais oublié une bonne, et c'est de ça qu'on va parler, parce que toi, tu l'as vu passer. Évidemment, l'histoire de Donald Trump qui a reçu le prince héritier saoudien, c'est M. Mohammed Ben Salman, qu'on appelle affectueusement MBS, qui est le fils du roi, donc qui n'est pas le président ou le roi, mais qui est une espèce de porte-parole. D'ailleurs, peux-tu clarifier ça? Lui, c'est quoi son rôle exactement? Ouais.
C'est le prince héritier de la famille Saoud. La famille Saoud qui est au pouvoir depuis, belle lurette, en Arabie saoudite, c'est vraiment le pays qu'on connaît aujourd'hui, a toujours été dirigé par la famille royale. Le roi Saoud actuellement, le roi Faisal, est très, très vieux, au-dessus de 80 ans, puis il n'est plus vraiment en position de diriger au quotidien. Fait que ça fait déjà, je dirais, depuis 2013-2014, on a commencé à avoir MBS, Mohammed Ben Salman, qui est son fils. Un de ses fils, il faut le dire, là, mais c'est celui qui a été sélectionné pour être le prince héritier. Fait que la réalité, c'est que MBS, c'est le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite depuis déjà 10 ans. Là.
Il n'y a pas le titre, mais il y a la fonction, puis c'est lui qui donne les calls. Là. C'est lui qui appelle.
Exactement. C'est compris par tout le monde que quand tu deals avec MBS, tu deals avec le boss.
OK. Et lui, on l'avait vu de mémoire là, quand il est arrivé, comme tu dis, là, au tournant des années 2010, quand on a compris que ça allait être lui qui allait être installé sur le trône. Lui, il était arrivé quand même avec une espèce de discours rafraîchissant, de modernisation, ouais, d'ouverture vers l'Occident, parce que c'est un pays, effectivement, qui est une... Je sais pas si on peut aller jusqu'à théocratie, là, parce que c'est pas une démocratie ou une théocratie, c'est une dictature. Mais lui avait donné des signes encourageants qui se sont dégonflés quand même au fil du temps, là.
Exactement. Lui est arrivé au début, là, puis on s'entend, là, l'Arabie saoudite, ils sont pas complètement ignorants de la réalité qu'il y a autour d'eux. Ils constataient assez rapidement, au tournant des années 2000, que le pétrole, ce serait pas pour toujours. Et que même si l'humanité continuait à pomper du pétrole jusque dans 2000 ans, la réalité, c'est que les réserves pétrolières saoudiennes n'étaient pas éternelles, puis qu'éventuellement, il faudrait qu'on trouve une manière de sortir de cette dépendance-là. Encore aujourd'hui, l'écrasante majorité des revenus de l'Arabie saoudite vient des revenus de l'exportation pétrolière, gazière. Donc, on essaie de trouver une manière de se diversifier. Ça, on a vu ça un peu partout là, dans le Golfe au cours des dernières années. Surtout pendant... Oui, particulièrement dans l'époque Obama, parce que, les États-Unis, à ce moment-là, d'abord, étaient en train de devenir suffisants énergétiquement. On n'avait plus besoin du Moyen-Orient. Ça changeait complètement la posture stratégique des États-Unis. On n'avait plus intérêt du tout à se mêler de tout ça. Puis encore plus, ça devenait des compétiteurs. Et à travers tout ça, tu avais l'administration Obama, mais aussi l'ère du temps qui nous parlait énormément des changements climatiques, la nécessité de laisser les hydrocarbures derrière. Fait que bref, tu as ça MBS qui arrive dans un contexte vraiment de point tournant. Et lui, ce qu'il nous promet, c'est de dire « Je vais transformer l'Arabie saoudite, l'émanciper de sa dépendance aux revenus pétroliers. Et comment je vais faire ça? C'est en pivotant vers le secteur touristique, le secteur technologique. On va positionner l'Arabie saoudite comme une espèce, si on veut, on va en faire un Dubaï sur des milliers de kilomètres carrés. » Et cette initiative-là a été, reçue avec un peu de scepticisme, on s'entend au départ, parce que à chaque fois que tu as des gros projets dans le Golfe, ça finit à peu près toujours de la même manière. Tu as ces projets, justement, rocambolesques, inventés par les leaders eux-mêmes, là, assis sur une table, qui te font des beaux dessins. Et ensuite, ça va souvent nulle part. Mais MBS arrive, nous fait cette proposition-là, il arrive avec une foule de projets, notamment, il y en a un qui a fait beaucoup les manchettes récemment, la fameuse ville en ligne, là, l'énorme ligne Neom qu'on voulait faire, en fait, c'était une ville qui passait d'est en ouest de l'Arabie Saoudite sur des centaines de kilomètres, wow. Puis qui voulait être un seul building, dans le fond. Là. C'est, ils ont produit des espèces de maquettes de tout ça. On voulait construire une espèce de mur de Chine à travers l'Arabie Saoudite dans lequel tout le monde pourrait habiter. C'était, écoute, c'était un peu gênant juste de penser qu'un gouvernement pouvait aller en cette direction-là. Mais bref, on a demandé de l'argent, on a demandé du capital. Et à travers tout ça, autour de... Là, je me souviens plus, l'événement est arrivé à quel événement, à quel moment exact. Moi, j'ai dans la tête 2015, peut-être fin 2016. Est arrivé vraiment ce scandale Khashoggi.
Oui.
Où là, on apprend qu'un journaliste turc qui était en fait qui se trouvait en Arabie Saoudite à ce moment-là a été assassiné par les Saoudiens directement dans l'ambassade saoudienne en Turquie. Ça a été bon, naturellement un événement qui a été largement rapporté, publicisé, ça fait beaucoup dans les médias et la raison pour laquelle c'était dans les médias, ça, moi j'étais un peu tout seul sur mon île à crier ça JC là, c'est surtout parce que l'Arabie Saoudite, on en avait plus besoin.
En 2018, pendant des années, c'était en 2018.
2018, un peu plus tard, voilà. C'est l'administration à ce moment-là, juste avant qu'arrive Joe Biden.
C'est important parce que ça nous rapproche de l'époque actuelle. Tu sais, ça fait pas 10 ans, c'est 2018.
Non, exactement. Puis ça, à ce moment-là, ben, t'as toutes les ambitions d'MBS qui viennent de tomber. Lui qui était vu comme le réformateur, qui allait un peu ramener l'Arabie Saoudite sur le bon chemin. Ben là, ce qu'on constatait, c'était, bon, on s'en allait dans la mauvaise direction totalement. Et ça a vraiment isolé l'Arabie Saoudite. Puis à travers tout ça, on s'entend. Lui, son méga plan là, de transformer le royaume en une plateforme technologique pour la planète entière, c'était largement dépendant des investissements extérieurs. On se basait sur le fait de dire on va te créer une Silicon Valley, ouais. Mais on se fie sur le fait que Apple puis Google puis Amazon vont venir s'installer et tout ça ne s'est jamais matérialisé. Encore plus, la relation avec l'Arabie Saoudite est devenue très difficile. Fait que là, ben ça nous amène à ce qu'on voit aujourd'hui, JC. Ouais. On a un beau quiproquo, un énorme quiproquo, alors que Trump a décidé de renier les conclusions de la communauté du renseignement aux États-Unis. On s'entend, là, la CIA avait regardé cette histoire-là et avait dit oui, non seulement le journaliste a été tué par les Saoudiens, mais ça a été ordonné directement par MBS personnellement. Et donc ça, c'est ce qui embarrassait beaucoup MBS. Là, il arrive à la Maison-Blanche. Il faut se mettre dans le contexte. Là, on ressort de 2 ans de guerre entre le Hamas et Israël.
Et il y a un lien important là, entre les
Absolument.
Deux. On essaie de se faire des amis.
C'est direct.
Exactement. Oui, c'est ça.
Et c'est direct parce que c'est ça. Ça fait 2 ans... Là, on revient à la situation juste avant que la guerre pogne entre le Hamas et Israël. Pourquoi ça a commencé, cette guerre-là? On l'a su par après à travers des mémos qui avaient été écrits par le Hamas puis qu'on a retrouvé dans le tunnel, etc. Les communications du Hamas en lien avec la guerre. La raison pour laquelle on l'a commencé, c'est parce qu'on avait peur que l'Arabie saoudite normalise ses relations avec Israël. Autrement dit, ouais. L'Arabie saoudite, ça fait des années là, qu'ils sont opposés mais jour et nuit à Israël. On se réveille la nuit pour les détester. Et là, ben, tu as ce MBS réformateur qui, lui, commence à parler de peut-être devenir ami avec Israël. Peut-être pas ami, mais au moins de normaliser les relations en échange d'un certain nombre de cadeaux qu'on demande, pas à Israël, mais aux États-Unis.
States.
On demandait on prendrait un programme nucléaire civil, entre guillemets. On demandait des F-35, ça a été concédé dans les derniers jours, et on demandait une garantie de sécurité. Puis en échange de tout ça, on dit on est prêt à regarder dans l'autre direction. Israël fera ce qu'il veut avec la Palestine. On ne dit pas ça comme ça, mais c'était le message. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est une normalisation, surtout une régularisation de la situation avec les États-Unis. Bref, MBS s'en vient au bureau ovale, et là, Trump nous dit « Ouais, finalement, moi, je pense plus qu'il était au courant.
Non,
je suis
bon
pas gars. D'accord avec la CIA. Je pense que c'est un bon gars, effectivement. Et encore plus, on va lui vendre des F-35. Et à partir de maintenant, l'Arabie saoudite devient un allié majeur des États-Unis, non membre de l'OTAN. C'est un statut qui est donné à certains pays à travers le monde, notamment au Japon. Et ce qu'on vient dire, au fond, c'est vous êtes essentiellement un membre de l'OTAN. On s'engage à vous défendre. C'est juste que vous ne faites pas partie de l'OTAN en tant que tel. Vous n'êtes pas en Europe. Fait qu'écoute, c'est énorme. On vient essentiellement de donner tout ce que l'Arabie saoudite voulait. Et en échange, on ne sait pas encore, mais on présume qu'on a eu ce qu'on demandait à l'Arabie saoudite depuis des années, la normalisation avec Israël. C'est la seule raison pour laquelle on lui vendrait des F-35, tu comprends?
Les F-35 dans la région, là... Il y a aussi la promesse, Benjamin, là, de j'ajoute ça quand même sur le tas, la promesse de Ben Salman d'investir plus de 1 000 milliards de dollars aux États-Unis, alors qu'on parlait de 500 ou 600 milliards avant. Ouais. Donc, il y a ça aussi, il y a un beau retour d'investissement là, pour les États-Unis, qui va gonfler le bilan de Trump, là, évidemment.
Mais tu sais, ça, soyons clairs, ils n'ont pas le choix, les Saoudiens. C'est une drôle de mécanique du dollar, mais ils n'ont pas le choix littéralement de l'investir aux États-Unis. C'est une belle merveille. Mais, écoute, les Américains ont passé un deal avec eux autres qui les oblige à accepter seulement des paiements en dollars pour le pétrole. Ils n'ont pas le droit d'accepter quelconque devise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, JC, si tu fais toute ta vente de garage au complet puis que tu as juste le droit d'acheter de l'argent, de recevoir de l'argent Canadian Tire, ben, tu te ramasses avec une méchante batch d'argent Canadian Tire que tu peux juste dépenser à une place. Fait que qu'est-ce qu'ils font, les Saoudiens? Ils prennent l'argent Canadian Tire puis ils vont chez Canadian Tire. C'est exactement ce qu'on voit depuis des années, où ils prennent les milliards de dollars, c'est ce qu'on appelle les pétrodollars, puis ils viennent te pomper ça dans l'économie américaine. Ben là, ils vont t'acheter des hôtels, la chaîne Four Seasons, une portion qui leur appartient. Ils vont t'acheter Mandela Bay à Las Vegas, ils vont t'acheter la Ligue de golf. Ils vont investir comme
Formule
ça un peu partout parce que... Tu fais quoi avec ton cash? Tu peux pas l'investir en Europe, ils sont notés en euros. Ça va te coûter 5-6% juste pour le convertir. Fait que c'est niaiseux comme ça. Les Saoudiens, bon, ils font le baveux avec leur argent. Ils n'ont pas le choix de l'investir aux États-Unis. Ouais. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est probablement garanti, là, avec ce qu'on vient de voir, que les Saoudiens se sont engagés en coulisses à normaliser avec Israël. Puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'on vient de leur donner des F-35. Nous autres, on a un deal avec Israël, justement, un autre de ces deals là, qu'on a avec les pays du Moyen-Orient, qui dit « Jamais on va donner à un autre pays un avantage militaire sur Israël. » Au contraire, on va s'assurer qu'Israël ait toujours l'avantage sur tout le monde autour parce que c'est notre allié. Fait qu'on lui donnait des F-35 juste à Israël en disant « Garde, juste avec ça, t'es capable de sacrer une volée à n'importe qui. Ouais. Tu peux rentrer sur leur territoire furtivement et bombarder, repartir. » Là, on vient de donner des F-35 à l'Arabie saoudite. Ça veut pas mal dire que l'Arabie saoudite s'est engagée fermement en coulisses à ne jamais les utiliser contre Israël et qu'il y a probablement la normalisation qui s'en vient de l'autre côté. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on vient d'assister à un deal de backdoor là, entre Trump et MBS. Ça va se matérialiser dans les prochains jours.
Puis, tu sais, c'est pas que... Puis je peux comprendre que quand tu veux la paix, des fois, tu dois piler sur des trucs. C'est juste toujours dans la façon de faire. Tu sais, Donald Trump, du jour au lendemain, là, tout le monde a cette vision-là de l'Arabie saoudite. Puis, tu sais, je regardais encore, avant qu'on se parle, là, les rapports de Human Rights là, puis des organismes partout à travers le monde qui disent que, bon, écoutez, là, l'adoucissement du régime en Arabie saoudite, c'est un petit peu superficiel. Là, t'sais, on comprend.
C'est une pièce de théâtre.
Exact. Ils ont donné droit de vote, pas le droit de vote, le droit de conduire aux femmes, mais il y a encore un paquet de trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire. T'sais, c'est toujours, on donne un petit peu, c'est toujours dans la parure pour avoir l'air de meilleurs habitants mondiaux. Mais quand tu regardes, quand tu creuses un peu, des journalistes arrêtés, des peines de mort pour des gens qui ont du cannabis, puis des affaires, c'est encore... Très sévère. Et là, t'as Donald Trump, Benjamin, qui accueille le gars. Tu sais, tu peux y aller dans la nuance, mais Trump, c'est pas sa force. Là. Donc, lui, il arrive, puis là, les chevaux, il sort la cavalerie, les dorures, les jets qui passent au-dessus, puis là, les cadeaux, les grosses accolades.
Un journaliste pose la question naturellement. Lui, c'est la première fois qu'on le voit là, à Washington depuis cette histoire-là de démembrement. Faut être clair, là, Jamal Khashoggi, c'était pas chic. Là. Ils l'ont embarqué, ils l'ont ramassé à l'ambassade, ils l'ont démembré, ils l'ont rentré dans une valise diplomatique puis ils l'ont sorti comme ça du pays.
Ouais.
Juste à être clair, là, c'est extrêmement trash qu'ils ont fait. Et là, après cet événement-là, c'est la première fois qu'on voit MBS. Et là, Trump, bon, MBS fait poser une question naturellement par un journaliste américain dans la tradition de la liberté d'expression puis du journalisme autonome. Il se fait poser une question à savoir, là, est-ce qu'on fait avec cette histoire-là là, de MBS puis de Jamal Khashoggi? Ouais. Trump de répondre instantanément, coupe le journaliste pour dire, « Hey, n'embarrasse pas notre invité.
Oui.
Don't embarrass our guest. » Et là, c'est qu'on arrive à une espèce de... On s'en va dans mauvaise direction, matériellement, puis directement pour les États-Unis. Là, c'est assez terrifiant à voir.
Hey, mais Benjamin, c'est drôle parce que sur les internets, là, je voyais beaucoup de commentaires du côté anglophone, bien entendu. Là, we're back, let's go, enfin, on est number one. Tu sais, J'ai pas compris comment ça que les... En fait, je comprends que ça représente pas nécessairement tous les Américains, mais je trouvais que c'était comme positif.
La réaction à la rencontre avec MBS, ben on s'entend, c'est quelque chose qui a été mis de côté. Là. La relation avec l'Arabie saoudite, c'est ce que je trouve hypocrite. JC, t'as bien fait d'en parler tantôt, dire c'est un peu une pièce de théâtre, cette histoire-là. L'Arabie saoudite, c'est pas nouveau qu'on garochait nos homosexuels du haut des toits. C'est pas nouveau qu'on lapidait des gens pour des stupidités. C'est pas nouveau qu'on avait des lois qui étaient dignes du Moyen-Âge. Maintenant, pourquoi soudainement ça devenait problématique que là, ils tuaient un journaliste? C'est parce que ça faisait notre affaire de les punir. C'est parce qu'à ce moment-là, les États-Unis étaient en train de remonter stratégiquement. On voyait qu'on était en train de devenir un exportateur de pétrole. On n'avait plus besoin de l'Arabie saoudite. On a voulu les garrocher en dessous de l'autobus. Puis c'était un prétexte. Donc, si tu regardes ça de la perspective de quelqu'un qui fait vraiment du grand theory, là, qui se dit, on veut être présent au Moyen-Orient, on veut avoir de l'influence... Tout ça, c'était un peu contre-intuitif.
Ouais.
C'était les États-Unis qui sortaient du Moyen-Orient puis qui décidaient de garocher tout le monde sur l'autobus puis de vendre du pétrole. On pourrait dire que l'approche Trump, ça vient, si on veut, c'est complètement contre-intuitif, là, parce que Trump nous a dit qu'il n'était pas interventionniste, qu'il voulait sortir du Moyen-Orient. Ben là, il vient de te ramener l'influence américaine au Moyen-Orient, puis pas à peu près. Là. Ouais. Ça veut dire que l'Arabie saoudite devient non seulement encore plus un popette américain qu'il l'était déjà, mais là, tu viens de leur donner les moyens de leurs ambitions. Tu viens de leur donner des F-35 pour bombarder en ton nom ceux qui vont te faire chier.
Et du nucléaire.
Il y en a plusieurs qui vont voir ça.
Ouais. Le programme nucléaire civil, yeah right, là, comme l'Iran. Hein? L'Iran, c'est très civil.
Exactement.
Ben oui, c'est ça.
Exactement. Puis t'en as beaucoup qui se disent en ce moment, carrément, garde la prochaine fois là, qu'Israël va partir en bombardement contre, et en guerre de 12 jours contre l'Iran, là, ben ils vont avoir un allié. Ils vont voir l'Arabie saoudite qui aura normalisé avec eux, qui est un rival stratégique de l'Iran. Puis t'en as probablement beaucoup qui font ce calcul-là. Ensuite, bon, faut pas évacuer la dimension partisane. Il y en a qui, peu importe ce qu'on va faire au PQ, on va féliciter PSPP, puis peu importe ce qu'on va faire chez les Républicains, on va féliciter Trump. Là-dessus, c'est une dimension qu'on peut difficilement évacuer quand même.
Et c'est, je comprends que businessment parlant, ça peut être une bonne chose à quelque part, mais des fois aussi, il y a juste qu'il faut imbriquer les valeurs là-dedans. C'est bien ben, la business, c'est... mais à un moment donné, tu as le droit de dire non. Ça, lui, par exemple, non. Ça, je vais passer mon tour. On est allé.
Pour être 100% sincère, JC, là, le move auquel on vient d'assister, moi, je ne l'interprète pas du tout comme une ambition stratégique des États-Unis qui réfléchissent, qui jouent des échecs en 3D. C'est vraiment purement et simplement un cadeau à Israël. Tout simplement.
Ouais, ouais.
C'est des F-35, on n'a jamais voulu vendre pantoute à l'Arabie saoudite. La seule condition pour laquelle on accepte, c'est parce que ça leur permet de normaliser avec Israël. C'est un énorme cadeau à Israël que sans leur accord, on ne l'aurait jamais eu. Puis d'ailleurs, ce matin, je lisais un article dans le Times of Israel que là, normalement, les Israéliens devraient paniquer à l'idée que tu vendes à un de leurs rivales stratégiques des F-35. Ils devraient être en train de déchirer leur chemise. Au contraire, ils sont en train de dire non, inquiétez-vous pas. Et je les cite, ils disent « We have an understanding ». On a une entente avec les Américains.
Il y a des choses que vous ne savez pas, exactement. En terminant, petite anecdote quand même, avant de quitter la Maison-Blanche, Donald Trump a amené son nouveau copain, Ben Salman, voir la pièce où on affiche les portraits de tous les anciens présidents.
Ouais.
Et on sait que Joe Biden et M. Ben Salman, ce n'étaient pas des copains. Puis qu'il l'a fait passer juste en avant du portrait de Joe Biden. Puis regarde, Pat, je te le montre. C'est, il a enlevé la photo de Biden, mais il a mis l'autopen.
Ben,
la machine, qui signait les documents de Joe Biden plus souvent qu'autrement. Ouais. C'est très drôle.
Puis il présente Barack Obama. Il passe à côté de son portrait. Il dit ça, c'est Barack Hussein Obama.
Incroyable. Merci, Benjamin.
Plaisir,
toujours un plaisir. Salut, Benjamin Tremblay.
Il est incroyable, Donald.
C'est incroyable. Mais tu sais, du jour au lendemain, là, ça, c'est mon chum, OK, là? Parce que tout le monde est là, my God, c'est pas notre ennemi national, ça.
Ouais, non.
Hey! Invite pas nos invités, toi, insulte personne ici, OK, là, c'est un bon Jack.
Il y a quelqu'un qui, je pense, est-ce que c'était ABC? Bref, il y a un journaliste qui dit, là, y a-tu un malaise avec le 9-11, tu sais?
Ouais.
Il dit, travaille pour qui? Il dit ABC, ben ABC, gang de pas bons, puis on le sait bien, vos questions. Mais là, je me disais, my God,
c'est parce que... C'est parce que tout ça est très pertinent, mais... Ta gueule, on a un deal. Femme ta gueule.
Ouais.
On n'est pas là, là.
C'est ça, je vais prendre les questions, mais ta gueule.
13-21, on revient.
Ouellette. Bon. En direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long. Radio X.